Right, tant mieux, je suis content de vous voir ce matin. Et alors que cette série prend place en présentiel, mais aussi elle se continue en ligne. Donc n'hésitez pas cette semaine de reprendre le message de Nouvelle Vie en ligne. C'est pasteur Stéphanie Rieder qui apporte le côté des changements climatiques. Est-ce que c'est un signe de la fin du monde? Donc il y a une série qui va se compléter avec le présentiel. On aura aussi des invités qui vont être hors série. Donc n'hésitez pas à suivre le en ligne et le présentiel, mais on vous encourage à être ici. Puis je suis content de vous voir de plus en plus nombreux chaque semaine à la deuxième réunion. La première, c'était plein aussi. Et puis, je remercie Dieu à chaque fois. Je ne prends pas pour acquis que l'Église est pleine en 2021 dans un Québec qui est en recherche de Dieu. Mais merci Seigneur parce que l'Église avance à Drummondville, ça avance à Châteauguay aussi. Les réunions sont de plus en plus remplies à Charlevoix, à Longueuil. Il y a quelque chose qui est fort qui se passe. Est-ce qu'on peut être reconnaissant pour une Église qui avance en 2021, qui proclame le nom de Jésus, la liberté en son nom et la lumière qu'il est pour nous? La fin des temps et moi, une série qui un sujet qui a toujours fait un peu le buzz. Si jamais vous regardez toutes les fictions, tous les ans, il y a un blockbuster, un nouveau film qui sort sur la fin du monde. Est-ce que c'est sur Mars? Est-ce que c'est ici, après que les aliens sont revenus? Ça fait couler beaucoup d'encre, ça fait beaucoup de scénarios. Et si jamais vous tapez film apocalyptique sur Netflix, il y a comme 3 pages que vous pouvez aller. Ça pique notre curiosité. Qu'est-ce que je ferais si j'étais le seul survivant? Après, avec Will Smith, là, tu sais, t'essayes de trouver, tu sais, qui a déjà vu des films apocalyptiques? C'est très égocentrique, ça montre s'il n'y avait plus personne sur la planète et que moi, tout seul, je restais, qu'est-ce que je ferais? Tu sais, mais ça nous pique notre curiosité un petit peu, là, ça fait ressurgir notre survivaliste un petit peu, là. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'aurais assez de cannes de bin dans mon bunker? Est-ce que je pourrais prendre cette arme-là pour me défendre contre les aliens? Tu sais, ça, c'est un petit peu, peut-être plus les hommes, les femmes sont comme. C'est vraiment pas mon type de film apocalyptique. Mais autant dans la fiction, ça fait couler beaucoup d'encre, autant dans la réalité. Chaque année, il y a une nouvelle date de la fin du monde. Je me souviens, en 2012, vous vous souvenez, le calendrier Maya, ils avaient retrouvé une stèle qui parlait, il y en a, ils rigolent en disant, oh non, ils ne vont pas nous ressortir ça. Oui, 2012, les Mayas avaient montré comme sur un calendrier, il y avait des années quasiment, là, je ne sais pas comment ils avaient calculé ça, mais tout était basé cette année-là sur, ça arrive la fin du monde. Il y a du monde qui avait vendu leur maison, acheté un bunker. Non, vraiment, hein, ce n'est pas juste une petite fiction. Il y avait vraiment quelque chose. Les gens s'attendaient à la fin du monde. C'est juste que sur la stèle, ils n'avaient plus de place pour continuer le calendrier. C'est juste ça le but. Donc, il y a comme un côté où même dans la réalité, les gens sont à l'affût de qu'est-ce qui se passe. Et en ce moment, avec tout ce qui prend place mondialement, il y a quelque chose, il y a comme une question qu'on ne veut pas forcément s'avouer de... Est-ce que c'est un signe des temps? Et puis, Pasteur Claude a commencé la série la semaine dernière, vraiment a mis les bases de tout ça et puis a fixé sur peu importe ce qui va se passer, parce que entre vous et moi, on ne saura pas quand la fin va prendre place. On peut essayer de distinguer, mais en même temps, aujourd'hui, je vous annonce une nouvelle, aujourd'hui, on est plus proche de la fin du monde que jamais. Demain, c'est la même chose. Okay? On rapproche la fin du monde. Elle va arriver. Maintenant, personne ne peut donner une date ni un jour. Puis c'est ça, des fois, que je déplore dans le monde chrétien, parce que des fois, il y a des extrêmes quand on parle de la fin des temps. Il y en a, puis je fais partie peut-être de la génération qui dit ça, en disant, on me l'a tellement dit que la fin du monde arrivait qu'en même temps, c'est devenu une joke. Il n'y en a pas. Tu sais. Puis en fait, la fin du monde, c'est pas que ça ne m'intéresse pas. Et je vous ferai pas lever la main, là. Mais il y a plein de monde qui se dit, je me pose pas cette question, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a un autre spectre, dans l'autre extrême, des gens qui voient la fin du monde dans tout. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe aux gens, ah, ça c'est un signe de la fin du temps. Et puis ça, et ça, et ça. Et des fois, à un moment donné, tu deviens quasiment schizophrène de dire, oh, il y a quelque chose, la fin du monde est là, je le sais. Et ça a commencé, il y a des vidéos sur YouTube depuis 10 ans, des trompettes qui ont été entendues en Russie, et puis quelque chose. Vous avez déjà vu ces vidéos-là? Moi, je suis le seul curieux sur YouTube. Et puis, mais en même temps, ils ont montré, non, c'est la plaque tectonique qui bouge, puis ça fait un gros son de trompette. Non, si tu cherches des signes, tu vas en trouver tous les jours. Mais il y a quelque chose entre ces deux-là qu'il faut avoir un équilibre, de dire que peu importe ce qu'on croit de la fin des temps ou quoi, ou est-ce que vous avez peur de la fin du temps, ou est-ce que vous dites, oh, je serais surpris vraiment si ça arrive maintenant. Quel est votre spectre? Où vous vous situez dans le spectre? Le but vraiment de ce message, c'est de revenir à l'équilibre en disant, on ne saura pas quand il y en aura un, mais quand il y en aura un, je serai prêt pour y être. Je serai prêt pour être avec Dieu pour toujours, parce que c'est l'espérance du chrétien. Nous n'avons pas à craindre tout ça, mais nous avons hâte à ce que Dieu revienne nous chercher. Et j'espère que c'est ce que votre cœur dit en ce moment, aujourd'hui. En 2011, je me souviens, même à Montréal, alors que je faisais des courses avec Sophie, 2011 à Montréal, j'ai vu un camion, peut-être que vous l'avez vu, pendant des mois, il a tourné. La fin du monde, le 21 mai 2011, la Bible le garantit. Je me dis, qu'est-ce que tu dis là? Il n'y a personne qui peut dire le jour, la date et l'heure. Mais eux, ils tournaient dans tout Montréal. Repentez-vous, la fin du monde est là, la Bible le déclare. Puis là, j'étais comme, ok, non, ils ne sont pas avec moi, ce n'est pas les gens de l'Église Nouvelle Vie, je ne pense pas. Le 22 mai, je leur ai écrit un courriel, véridique. Je leur ai écrit un courriel. Bonjour. Je pense qu'on est encore là. Avez-vous une question qu'est-ce que vous pensez de la fin du monde qui n'a pas eu lieu hier? Et ils m'ont répondu peut-être genre une ou deux semaines après. Je pense qu'ils étaient dans des bunkers, tout ce qu'on... Puis ils sont sortis en disant, oh, c'est peut-être pas maintenant. Et tout de suite, ils m'ont dit, non, on s'est trompé dans les calculs. Ils n'ont pas dit, oui, c'est vrai, la parole de Dieu nous dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Non, c'est vrai, on se repent. Non, non, ils ont dit comme, on s'est trompé dans les calculs. On a refait, maintenant, ça sera en 2172. Bien sûr, comme ça, ni toi ni moi, on pourra vérifier la chose. Et puis, entre guillemets, il dit, ouais, reviens là-bas, c'est la fin du monde. Je serais parti de ce monde bien avant. Mais quand on essaye de mettre des dates, des fois, le cercle, même chez les chrétiens, se fait. Au plus tu es convaincu qu'il y a la fin du monde partout et tout le temps, au plus tu fais peur à ceux qui disent « ça ne m'intéresse pas ». Mais au plus ceux qui disent « ça ne m'intéresse pas », les autres ils disent « parce que ça ne t'intéresse pas, il faut que je te réveille, il faut que je t'en donne plus des vidéos, il faut que je t'envoie tous les liens de YouTube en ce moment ». Il y en a-tu qui vous envoie plein de liens YouTube en ce moment? Il est comme « regarde, il y a quelque chose qui se passe, en ce moment c'est la fin du monde, je le sais, j'ai une révélation ». Il y a quelque chose qu'il faut qu'on revienne dans un équilibre de dire « la fin du monde c'est certain, elle va prendre place ». Mais il y a quelque chose en tant que chrétien qu'on n'a pas à avoir peur de ça. On a à propager la bonne nouvelle de l'Évangile. Beaucoup plus que la mauvaise nouvelle de la fin du monde. Cette série n'est pas pour faire peur à personne. Même si le teaser est un petit peu à la cinématographique, un petit peu pour donner un petit peu de curiosité, il n'y a aucune notion en nous de vous faire peur sur la fin du monde. Mais par contre, de nous rassurer, de dire que celui qui est ancré dans la parole de Dieu, celui qui a été régénéré par Jésus-Christ, qui a un nouveau cœur, il a une espérance que ni la mort, ni la vie, ni les persécutions, ni la fin du monde, peu importe, ne nous séparera de Jésus-Christ et nous serons avec lui pour l'éternité après notre mort. Est-ce qu'on peut applaudir et remercier notre Dieu qui nous donne une espérance de la vie éternelle? Le titre de mon message, c'est « Et si la fin était maintenant ?» Et si la fin était maintenant ? Et je sais qu'il y a différentes interprétations dans les livres prophétiques, même des livres de l'Apocalypse. Au plus je l'étudie, au plus je me rends compte des différentes interprétations. On pourrait dire qu'il y en a quatre grandes. Et même dans ces quatre grandes familles d'interprétations des temps de la fin, il y a des dizaines d'interprétations pour chaque événement. Et aujourd'hui, je vous dresserai pas une timeline de dire voici. Alors l'enlèvement va prendre là, ensuite les sept années de tribulation. Parce que même là ici, ce matin, il y a des personnes de différentes interprétations qui pensent que l'enlèvement va se faire avant les tribulations, pendant, au milieu ou après. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de tribulation en fait depuis que Jésus est arrivé et qu'il est reparti. On est dans le temps de tribulation. Il y a tellement d'interprétations différentes sur ces détails-là que je ne veux pas focusser sur ça aujourd'hui. Je veux me focusser sur les choses que nous avons tous en commun. Que peu importe si on est dans les tribulations ou si on arrive, le message reste le même. Garde espoir. Et si quelqu'un vient de rentrer à l'église ce matin en disant « j'ai jamais entendu parler de la foi, même je suis là curieux », t'es le bienvenu. Parce que le message de l'Évangile, c'est le message de garde espoir. Peu importe la saison, peut-être t'es dans la pire saison de ta vie, on vient de te dire que t'as un cancer, il y a un décès dans ta famille, il y a une situation tellement peur. La parole de Dieu reste la même. Garde espoir. Parce que si Dieu est là, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. Et même dans la pire saison de ta vie, il peut transformer le mal en bien et faire que de ta vie en ce moment, tu brilles et tu témoignes et tu es la joie. Combien l'ont déjà vécu? Avoir la joie dans une situation où tout semble désespéré. Et c'est ça le message qu'on veut dire aujourd'hui. Différentes interprétations dans le récit de la fin. Il y en a, c'est des lectures littérales, des écrits apocalyptiques ou prophétiques. D'autres, c'est des lectures allégoriques. C'est des images, des symboles qui réfèrent à. Il y en a, c'est des prémilitaristes. D'autres, ce sont des postes. Il y a vraiment tout un champ d'interprétations différents. Mais j'aime me rappeler que dans la parole de Dieu, il y a différentes manières d'interpréter, et surtout les livres prophétiques et apocalyptiques, il y a vraiment quelque chose qu'il faut prendre du recul quand on les lit. Et quand je parle de recul, j'aime le concept de prolepticité, le concept proleptique des prophéties. En fait, quand on regarde les prophéties de Daniel, par exemple, Daniel a vécu il y a des millénaires, c'était un personnage de l'Ancien Testament qui a eu une vision de la fin des temps. Et en fait, cette vision-là, lui, il l'a eu en big picture, il l'a vu comme une seule image. Mais il n'avait aucun recul, que nous on a aujourd'hui, de voir que OK, il a parlé de plusieurs événements, il pensait que c'en était un, mais en fait, il y en avait plusieurs. Il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, il y a eu plein. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils parlaient de leur vision, ils parlaient comme d'un seul, une seule image, une seule big picture. Mais en fait, quand on regarde sur la ligne du temps aujourd'hui, on voit qu'il y a des événements qui ont été prophétisés, qui se sont déjà accomplis. Il y en a qui sont en train de s'accomplir, il y en a qui vont s'accomplir. Donc, il faut comprendre le côté du recul. Et il y a une vidéo que j'aimerais vous montrer. C'est une vidéo d'un artiste, new-yorkais qui travaille sur le big picture, mais petit à petit, quand on tourne l'angle, on voit qu'en fait, ce sont des centaines, voire des milliers d'éléments mis les uns à côté des autres et en fait distancés. De peu ou de loin, peu importe, mais il y a quand même quelque chose que quand on est dedans, on voit plein de petits éléments qui sont séparés les uns des autres. Mais quand on revient à l'angle que, en fait, pour nous, le prophète voyait la vision de la fin des temps, que ce soit Daniel ou même Jean dans l'Apocalypse, eux voyaient une seule image. Mais nous, avec le recul, on voit que certains événements se sont déjà produits, d'autres se produisent et d'autres vont se produire. Vous me situez ? Donc, peu importe l'interprétation, on voit qu'il y a un recul à prendre de la manière dont on lit les prophéties de la fin des temps. En passant, ces 3200 petites bouillies qu'il a mis ensemble, ça lui a pris plus de 1000 heures. Est-ce qu'on peut applaudir son travail quand même? Ça nous donne une illustration de 15 secondes pour nous, mais quand même. Et dans les 66 livres de la Bible, il y a différents niveaux de compréhension et d'interprétation de la parole. Chaque livre est différent. Il y a des livres poétiques, il y a les évangiles narratifs, il y a des livres prophétiques. Et puis, les théologiens disent que n'essaye pas d'étudier l'Ancien Testament, l'Apocalypse, si tu n'as pas déjà lu et assimilé l'Ancien Testament. Parce que l'Apocalypse, souvent on voit ça comme « Wow, regarde, c'est quelque chose de nouveau ». En fait, c'est juste illustrer plein de vérités qui se trouvent dans les 65 autres livres de la Bible. Donc, il y a vraiment quelque chose, tellement de références, de prophéties de l'Ancien Testament qu'il faut, une fois les avoir compris, ensuite. Si quelqu'un est là ce matin et puis il dit « Donc, je ne dois pas lire la Bible », oui. Commence par les évangiles. Lis Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu vas comprendre qui est Jésus. Et en fait, Jésus, dans tous les livres, et dont l'Apocalypse, c'est le personnage central. C'est lui sur qui tout pointe. Et si tu comprends qui est Jésus, tu vas pouvoir ensuite passer dans l'Ancien Testament et comprendre que c'était les choses, c'était l'ombre des choses à venir. Jésus vient révéler, vient accomplir la loi, tout ce que l'Ancien Testament envie. Je fais un petit sommaire de tout ça, là, mais il y a vraiment un côté où le dernier livre de l'Apocalypse est un livre qu'il faut comprendre, il faut lire. En fait, les passages, une règle en interprétation biblique, c'est que tu interprètes un passage obscur à la lumière des passages clairs. Tu interprètes la Bible par la Bible, mais il y a des passages qui sont moins faciles à interpréter, tu les interprètes par ceux qui sont plus faciles. Est-ce que je peux vous en dire juste amen? Juste pour m'encourager, je vous vois comme en cours de philo. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Non? Vous me suivez jusque-là? Parfait. Et si la fin était maintenant, quelle serait ton attitude? Et tous ici, que tu sois chrétien depuis 30 ans et dans la meilleure période de ta vie spirituelle incroyable, ou que tu viens de rentrer il y a 3 minutes et tu es incurieux, cette question amène une réponse et un changement pour chacun d'entre nous. Si la fin était maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu devrais changer? Je pose la question parfois, si Jésus revenait dans 24 heures, qu'est-ce que tu ferais dans tes 24 prochaines heures? Personne ne dirait, je ferais la même chose que hier. Non! Tout le monde rangerait sa vie. Tout le monde appellerait les gens. Tu te dis, OK, là, il faut vraiment que je règle mes affaires. Puis le téléphone que je dois demander pardon à mon oncle parce qu'un party de Noël en 77, je lui ai... Non, mais je réglerai mes affaires, n'est-ce pas? Levez pas la main, on a tous un oncle en 77, même si je n'étais pas né. Il y a quelque chose qu'il faudrait que tu mettes ta vie en règle parce que tu dis, si la fin se fait maintenant et que je pars et que j'arrive devant Dieu, il faut que je sois le plus près possible. Qu'est-ce que ça devrait changer pour toi? Quelle serait ta réaction si la fin était aujourd'hui? Est-ce que tu serais surpris ou effrayé? Ou comme la parole de Dieu nous le dit, plein d'espoir et encouragé? En fait, chaque chrétien ne devrait pas avoir peur de la fin du monde, mais devrait plutôt chérir, et c'est mon premier point, l'espoir du retour de Jésus. Quel est votre espoir aujourd'hui? Est-ce que c'est d'amasser tellement d'argent en banque que, une fois que je pourrais prendre ma retraite, là, je serais tellement bien? Quel est l'espoir de ta vie? Quand je vais me marier, que j'aurai cette famille-là, je serai tellement bien. Quel est l'espoir ultime de ta vie? Chaque chrétien qui a reçu Christ sait que son retour sera le retour d'une vie qui n'était pas parfaite, mais qui a été difficile dans certains cas. Mais quand le retour de Jésus va arriver, nous serons dans la gloire pour l'éternité. Et c'est l'espoir ultime pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, je veux vraiment que ce message puisse nous dire que peu importe si la fin des temps se fait avant, après ou qu'elle est en... peu importe quand est-ce que dans ton interprétation tu la situes, il y aura une fin. Toutes les personnes qui parlent des récits apocalyptiques disent que Jésus va revenir. C'est un fait et il faut que nous soyons prêts à son retour. L'espoir du retour de Jésus. Quelqu'un va dire peut-être, mais il n'est pas déjà venu Jésus sur la terre? Oui, sa première venue il y a 2000 ans. Il est venu naître, il est venu vivre, il est venu souffrir et mourir à la croix pour que toi et moi nous puissions être complètement pardonnés de nos péchés et réconciliés avec Dieu. 3 jours après, il a été ressuscité. Après être mort, il est ressuscité. Et il est maintenant à la droite du Père, nous préparant une place. Et quand il va venir nous chercher, nous pourrons être pris, nous, l'Église, son épouse. L'Église est l'épouse de Christ. Nous serons avec lui pour toujours dans l'éternité. Quelle est ta réaction si la fin du monde était aujourd'hui? Si Jésus revenait aujourd'hui, quelle serait ton attitude? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu serais prêt? Des centaines de prophéties de l'Ancien Testament ont prophétisé justement la venue de Jésus. Il y a des centaines de prophéties, quand on regarde dans l'Ancien Testament, qui prédisent la venue, la première venue de Jésus. Mais il y a 5 fois plus de prophéties qui parlent du second retour de Jésus. Ce qui fait que, parfois quand on parle avec des chrétiens, on n'a pas l'impression qu'ils attendent ce retour-là. On n'a pas l'impression qu'ils se disent, wow, c'est comme un bonus. Non, c'est le but ultime et l'espoir de ta vie, n'est-ce pas? Parce que si tu ne crois pas à l'espoir que Jésus revient, ben quel est ton espoir aujourd'hui? Jésus reviendra pour les morts et les vivants. Et c'est ce que Paul, quand il répond aux chrétiens de Thessalonique, il est en train de les encourager parce que les chrétiens de Thessalonique, dans les premiers temps, alors que Jésus a été enlevé, puis il y a des églises qui sont en train de se former, eux étaient certains que Jésus revenait. Il y avait comme une conviction qu'eux-mêmes, dans leur vie, dans leur vivant, ils disaient « Jésus va revenir ». Donc, il faut qu'on soit prêt. Et il y avait une joie dans leur cœur parce qu'ils n'avaient pas le confort qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? Ils attendaient le retour parce que pour eux, c'était leur espoir d'une vie incroyable, d'une vie parfaite, d'une vie sans persécution, sans problème, sans tentation, sans péché. Et eux sont là et ils écrivent sans doute à Paul en lui disant « Mais si nous, on va être pris, qu'est-ce qui va se passer des chrétiens qui sont morts ?» Ceux qui sont partis avant nous, est-ce qu'ils vont rater ce retour? Qu'est-ce qui s'en est? Et là, il y a comme une peur en eux. Alors Paul leur parle dans 1 Thessaloniciens 4, versets 14 à 18, on le lit ensemble. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Jésus-Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Il termine pas en disant « Ayez peur de la fin !» Non, encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. La fin des temps ne doit pas te faire peur, elle doit t'encourager. Et ce n'est pas d'une manière comme « Ah, oh, on a hâte de quitter cette terre, on a hâte à la mort. » Non, 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 je n'ai pas hâte de mourir. Je ne suis pas pour vous là, mais tous les jours que Dieu me prêtera vie ici, je vais les vivre à 100%. Je vais aimer, je vais donner, je vais demander pardon, je vais essayer d'être la meilleure lumière pour que Christ parle et se révèle à travers moi. Parce que s'il décide de me garder ici encore longtemps, des années ou des jours, peu importe, chaque jour je vais le vivre comme si c'était le dernier et je vais vraiment, vraiment briller et parler et propager la bonne nouvelle. Puis ça, c'est ma mission de vie. Mais je veux vraiment que je sois ranimé même encore aujourd'hui par une passion nouvelle de Jésus revient. Il va revenir. Est-ce que nous sommes prêt. Paul est en train de dire, si tu as accepté Jésus, que tu sois vivant ou que tu sois déjà décédé, ne t'inquiète pas, parce que ta vie est en Jésus-Christ. Et quand il reviendra, les morts ressusciteront et les vivants les rejoindront. Il y a comme quelque chose de fort que notre espoir doit être dans le retour de Jésus. Peu importe si on est déjà dans les tribulations ou si on va les passer ou si l'enlèvement va se faire avant, peu importe, le retour de Jésus doit être ton espoir central. Les premiers chrétiens, quand ils se saluaient les uns les autres, ils disaient un mot, ils disaient « Maranatha ». Maranatha veut dire en grec « viens, le Seigneur vient, le Seigneur revient ». Il y a comme un côté où ils étaient en train de se dire « Hey, je t'encourage, je te salue, mais Jésus revient ». Il y a comme la bonne nouvelle est là. C'est comme peu importe ce que tu passes, quand on parle avec quelqu'un et puis qu'on lui dit « Hey, Jésus revient », c'est tellement l'espoir au-dessus de tout. Quand quelqu'un est même proche de la mort, quand quelqu'un passe par des moments difficiles, cette phrase-là, même les chrétiens persécutés l'avaient, c'est « Hey, prends espoir, Jésus revient ». Peu importe ce que tu vis, ça ne vaudra pas la gloire. Ça vaudra pas, ça vaut pas le prix d'abandonner aujourd'hui la foi parce que Jésus revient. Et tu vaincras avec lui pour toujours. Il régnera. La première venue de Jésus était un serviteur qui venait comme le Fils de l'homme sauver l'humanité. Il était Fils de Dieu, il s'est fait Fils de l'homme pour que les fils de l'homme puissent devenir fils de Dieu. Il est venu comme un serviteur pour être un sacrifice, mais quand il reviendra comme un roi sauveur, vainqueur sur les nuées. Tout le monde le verra, tout le genou pliera, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on peut donner une gloire à son nom, à dire Jésus, quand il revient, il règne et je régnerai avec lui. Les premiers chrétiens se saluent en disant Maranatha, c'était l'espoir de leur vie. Un jour, je serai avec lui éternellement. Quelle est votre vision de l'éternité? Est-ce qu'en ce moment, l'éternité, c'est comme, ben, j'ai pas vraiment envie d'y aller? Mais quand on parle avec des gens qui se disent, ben, je sais pas, là, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a comme, tu seras comme un petit ange dodu, tout nu, avec une harpe, là, tu sais, tu vas redevenir bébé. Non, je pense pas que même Jésus veuille nous voir comme ça dans l'éternité tout le temps, non. Mais il y a vraiment quelque chose de fort avec l'éternité, c'est que nouveau cieux, nouvelle terre. Tout ce que tu aimes ici qui est saint, qui est de Dieu, sera parfait là-haut. Toute joie que tu aimes ici sera parfaite là-haut. Tout ce que tu as peut-être rêvé d'avoir, même la connaissance que tu as mis. Oh, comment la création s'est faite? Qu'est-ce qui s'est passé avec les dinosaures? Waouh, j'ai envie de savoir. L'éternité sera le lieu pour que toute connaissance nous soit révélée. Mais au-delà de ça, la présence ultime de Jésus-Christ pour l'éternité, le voir face à face, Dieu lui-même dans sa gloire, plus aucun péché, plus aucune accusation, plus aucun doute, plus aucune peur, plus aucun péché, plus que de la paix, la joie, l'amour, plus de peur, ni de souffrance, ni de déception, ni d'angoisse, ni de colère. L'éternité, dans la gloire de Dieu, a proclamé sa gloire. Certains disent aussi, ouais, mais c'est comme une grande chorale, puis on va chanter toute l'éternité, mais moi, je ne sais pas chanter, je chante faux. T'inquiète pas, ça ne va pas être une grande chorale que tu vas tout le temps chanter. Ça va être juste la joie, la paix, l'amour, le côté perfection, comme tu ne pourrais même pas imaginer. Tu ne peux pas dévaluer le paradis en disant, est-ce que ça va être moins... Non, il n'y aura rien qui sera moins, tout sera toujours plus et tout sera toujours plus parfait. Donc ce matin, je veux que vous soyez encouragés, pas avoir peur de la fin du monde pour « Oh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que les gens... » Non, tu ne dois pas avoir peur, tu dois avoir hâte que Jésus revienne parce que toute la gloire sera révélée. Et ça, c'est notre espoir en tant que chrétien. Jésus l'a promis dans Jean 14, 3, il dit à ses disciples, « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » C'est notre espoir. On ne va pas rester ici éternellement. Je ne veux pas rester ici éternellement. Mon âme se languit du retour. Même la création attend le retour de Christ. Il y a comme quelque chose que nous vivons dans un monde déchu. Et même si en ce moment, puis merci Seigneur, au Québec, on est vraiment bien. On est dans une aisance, dans une opulence, on est dans une bénédiction. Et puis ça fait écho à des prières des gens qui ont prié fort pour que nous puissions vivre en paix dans un pays aujourd'hui, réellement. Il faut reconnaître ça. Mais parfois, cette opulence, ce confort, nous fait oublier la gloire à venir. Les chrétiens devaient lutter contre la persécution pour ne pas abandonner la foi. Nous ici, il faut qu'on combatte l'opulence et le confort. Et le self, ok, qu'est-ce que je peux avoir dans cette vie? Notre vie n'a pas été sauvée pour que nous puissions en profiter de nous. Tout ce que Dieu nous a donné, il nous a dit, partage-le. Si tu es sauvé, tu as une mission d'aller annoncer l'évangile autour de toi. De faire en sorte que les dizaines de millions de personnes qui, chaque jour, meurent sans peut-être connaître Christ, que nous puissions arrêter ce train-là et dire, hey, on va proclamer dans nos familles, et puis avec l'aide du Saint-Esprit, parce que pour nous, la mission est trop grande, mais par son Esprit, et par la parole de Dieu, et par l'annonce de la bonne nouvelle, de la joie, de l'Évangile, on va proclamer qui est Christ. Et ceux qui cherchent la vérité, ceux qui ont besoin de lumière, vont la trouver en Jésus. Parce que ce n'est pas un placebo, ce n'est pas une béquille, non, c'est le moteur de notre vie. On a avancé dans le vide, et là, il nous a donné un sens à notre vie. Il a mis devant nous la mort, la vie, il a choisi la vie, on a choisi la vie, et maintenant, on est avec lui pour toujours à compter d'aujourd'hui. Il faut que nous puissions être des motivés et passionnés par le retour de Christ. Nous devons être ceux qui attendent le retour de Jésus. Quand Jésus dit « je reviendrai vous prendre », il fait référence aux coutumes de l'époque dans les mariages juifs. Un mariage juif se faisait qu'il y avait une période de cour où le fiancé allait courtiser sa fiancée. Et là, il planifiait se marier. Et quand il y avait quelque chose comme ça, le marié ensuite repartait dans la maison de son père pour ensuite aller travailler pour faire une maison pour sa maison, pour son couple. Et ensuite, il revenait chercher sa fiancée pour ensuite que le mariage soit célébré. Et quand vous regardez, quand je dis ça, il y en a plein qui font écho avec plein de versets, parce que notre relation avec Jésus est comme symbolisée par un mariage. Et l'Église est l'épouse de Christ. Alors Jésus est venu, il a tout donné, il nous a montré son amour, il nous a montré son amour inconditionnel, il s'est sacrifié pour nous. Maintenant, il est parti rejoindre le Père, nous préparer une place tellement incroyable. Une place. Si Jésus me prépare une place, je veux y aller. Je ne sais pas pour toi, là. Il est parti nous préparer une place, mais il a dit, je reviendrai vous chercher. Et quand est-ce que le mariage va être célébré? Aux noces de l'agneau, quand nous serons tous avec lui pour toujours. Il y a quelque chose de fort parce que Jésus nous a dit, je ne vous abandonnerai pas, je reviendrai vous chercher. Alors c'est pour ça que l'épouse doit garder non seulement l'espoir du retour de Jésus, mais aussi ne pas s'endormir, c'est mon deuxième point. La force pour persévérer jusqu'au bout. Jésus le dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Si la fin était aujourd'hui, vous ne le savez pas, vous ne le savez pas. Mais il faut que vous soyez prêts si le jour arrive. Il prend la parabole des 10 vierges folles et des 10 vierges sages. Il y en a qui sont prévoyants et il y en a qui sont insouciants. Il y en a qui vivent leur vie chrétienne en disant, regarde, c'est bon, pas besoin de tellement travailler à l'œuvre de Dieu. Tu sais, il y a déjà du monde, ministère, il y a des églises qui roulent, tout ça, ils n'ont pas besoin de moi. Jésus a besoin de toi. S'il t'a sauvé, qu'il t'a ajouté à son royaume, il dit, proclame le royaume. Il y a quelque chose de fort parce que Jésus dit, ne t'endors pas. Prends pas ça, relax. Fais pas juste, regarde, je vais m'asseoir, puis je vais attendre dimanche prochain, puis je viendrai, je consommerai un petit peu l'église, et ensuite je reviendrai dimanche. Non. Fais avancer le royaume, sois prêt. Il faut que tu aies de l'huile dans ta lampe. Il faut que tu sois là chaque jour à dire, Seigneur, comment je peux t'adorer mieux? Comment je peux célébrer ton nom mieux? Comment je peux te représenter mieux? Comment je peux parler de toi mieux? Comment je peux prier pour les gens mieux et plus peut-être? Parce qu'à ton travail, il y a des gens qui ont besoin d'entendre Christ. Dans ton voisinage, il y a du monde qui a besoin d'entendre Christ. Dans ta famille, peut-être, il y a des gens qui se posent des questions. Et tu as la réponse à leurs questions. Mais si tu ne parles pas, qui le fera? On aimerait que cette église, il y ait des millions de personnes qui viennent, mais on sera limité. Et au plus de monde qu'on pourra, réellement, fin de semaine, le 31 octobre, on va faire un service de baptême ici. On va tout faire pour être le plus évangélisant possible. Ça va être incroyable. On va prier pour que Dieu sauve des âmes. Mais imaginez si 400, 500 personnes à la prairie repartaient chez eux et puis se disaient, Seigneur, je vais être une lumière demain. Et donne-moi le courage de pouvoir témoigner. Donne-moi, Seigneur, d'avoir de l'huile dans ma lampe. Parce que s'il y en a qui sont insouciants, moi, je veux être prévoyant. Je veux me dire, je veux me tenir prêt et je veux emmener le plus de monde avec moi. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Je veux que les personnes de ma famille soient sauvées. Mais je ne veux pas attendre que Dieu se révèle à eux. Peut-être que Dieu attend que je parle et qu'il se révèle à travers moi. Est-ce qu'on pourrait se dire, Seigneur, on ne veut pas être celle qui avait plus d'huile dans sa lampe. Non, on veut être celle qui avait prévu que, peu importe, si je crois que c'est maintenant, cette année, ou peut-être dans 100 ans, peu importe, si tu viens me rechercher ou si moi, je vais venir te rejoindre, je veux avoir de l'huile pour que le dernier jour de ma vie, je puisse dire, j'ai tout fait, j'ai tout, j'ai travaillé fort, j'ai couru la course, maintenant je peux entrer dans la joie du maître et que Dieu dise, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il faut être prêt. Il faut être prêt parce que parfois on perd de vue l'objectif. Le confort nous fait oublier le vrai prix à remporter ou le fait d'évaluer. Je ne veux pas perdre ce que j'ai ici, je n'ai pas hâte de partir dans l'éternité. Ça sera comment là-haut? Est-ce qu'il y aura... Non. Pierre, dans sa lettre à 1 Pierre 1, encourage les chrétiens qui sont persécutés sous Néron. Néron était un fou. Néron était un empereur qui prenait les chrétiens sous la persécution à Rome. Il prenait les chrétiens, il les empalait, il les brûlait dans son jardin pour éclairer sa maison. Il faisait des fêtes autour de Cana. Il y avait comme des choses incroyables. Cette persécution-là est là. C'est pour ça qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Il ne faut jamais dire que l'Église au Québec est persécutée. parce que le niveau de persécution aujourd'hui grandit exponentiellement dans des pays qui persécutent à mort les chrétiens. Il faut qu'on fasse vraiment attention de ne jamais voir notre situation pire que, alors que, et je ne dis pas que c'est facile de vivre la foi au Québec, mais je veux dire réellement que Dieu nous donne une grâce, que Dieu nous donne faveur, que Dieu nous donne une audace. Mais quand Pierre encourage les chrétiens qui sont persécutés, voici ce qu'il leur dit. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau, à travers la résurrection de Jésus-Christ, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui a fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore et vous, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » C'était la première fois que j'étudiais ce texte et je me disais, c'est tellement puissant. Et en comprendre le contexte dans lequel Pierre parle, c'est des chrétiens qui sont en train de perdre leur vie. Des chrétiens, mais il dit, regarde, et la joie pour, dans ton cœur, chéris le moment où Jésus reviendra. Et que tu sois parti avant ou qu'il va revenir dans ton vivant, célèbre le jour où quand il reviendra, toute larme sera effacée, il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus rien, juste que la gloire parfaite de Dieu. Est-ce que nous avons hâte de vivre ce moment-là? Peu importe les saisons que nous vivons. Il y en a en ce moment, vous vivez la pire saison de votre vie. Cancer, il y a eu décès dans votre famille, puis vous dites, j'ai l'impression que je suis au plus bas. C'est le même évangile qu'on proclame. Garde la foi, garde l'espoir que Jésus revient te chercher. Si tu es en lui, tu n'as rien à craindre. Et même si en ce moment tu dis, mais c'est tellement difficile, Dieu sera ta force. Parce que même si aux hommes c'est impossible, à Dieu tout est possible par son esprit. Il peut souffler sur toi un dose de foi, comme les disciples, comme Étienne, qui était lapidé, persécuté, mais qui célébrait Dieu, qui voyait Jésus et puis qui disait, je vais le rejoindre. Est-ce qu'on pourrait être une église réveillée à dire, Seigneur, peu importe les saisons dans lesquelles on vit, peu importe l'angoisse que le monde vit en ce moment, Seigneur, donne-nous d'avoir une huile de joie, donne-nous d'avoir un espoir, donne-nous d'avoir une bonne nouvelle à leur donner parce qu'ils ont besoin de lumière, ils ont besoin de la vérité et nous l'avons, nous voulons la partager. Est-ce qu'il y a une église qui veut acclamer notre Dieu, qui nous donne la force, le courage et l'audace de prêcher? Alors que les musiciens remontent, j'aimerais vraiment, alors que cette semaine, à la soirée de prière, on a passé un temps pour prier pour les chrétiens persécutés. Quand j'y pensais, je me disais, Seigneur, ces gens-là, ils avaient une foi incroyable qui nous encourage. Nous devons prendre exemple sur eux. En ce moment, l'indice de persécution, c'est qu'il y a 340 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés et discriminés dans le monde. Un chrétien sur six en Afrique. Deux chrétiens sur cinq en Asie. Depuis 8 ans, la persécution est en hausse constante. Rien qu'entre l'index de 2017 et 2021, la persécution a augmenté de 8%. Les temps de persécution grandissent, mais la grâce de Dieu surabonde parce qu'il n'y a jamais eu autant dans ces pays persécutés des conversions incroyables, miraculeuses, des familles qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Jésus se révèle par eux en rêve et il dit « Je suis le Fils de Dieu, lève-toi ». Et il y a des choses incroyables, des familles qui sont restaurées, des miracles qui se passent. Une église souterraine qui n'a même pas le droit d'avoir une Bible, qui dès qu'il la chérit, il la prenne par cœur. Il y a quelque chose que Dieu fait, une œuvre incroyable qu'il n'a jamais fait avant. Des millions de personnes découvrent son nom aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons être une église réveillée en disant, Seigneur, si tu le fais là-bas sous la persécution, nous, on va prendre tout ce qu'on peut pour être prêt et proclamer ta bonne nouvelle dans une saison en ce moment où le Québec nous donne un droit de liberté de religion, où on peut proclamer ton nom, où on peut prier avec les gens, où on peut lire la Bible, où on peut en acheter une, où on peut la télécharger sur notre cellulaire. Seigneur, donne-nous d'être réveillés. Donne-nous de jamais nous asseoir dans notre confort en disant, oh, c'est tellement difficile un peu la vie. Non, Seigneur, merci parce que tu nous donnes, tu nous combles de tout. Nous avons besoin de rien, tu nous combles, tu pourvois à tous nos besoins. Donne-nous une passion nouvelle. Combien veulent une passion nouvelle pour le nom de Jésus? Cette semaine, alors qu'on parlait justement de ces chrétiens persécutés, j'ai expliqué qu'il y a quelques semaines, en Haïti, il y a un diacre qui s'est fait tuer devant l'église, en allant à l'église le matin. et sa femme s'est fait kidnapper. Et pendant que je disais ça, il y a une sœur de l'église qui est venue nous voir et puis qui a dit, mon pasteur, mon ancien pasteur de 79 ans aussi en Haïti, mon ancien pasteur s'est fait kidnapper et ça fait maintenant plus de 15 jours qu'on n'a pas de nouvelles de lui. Il y a des chrétiens partout dans le monde qui vivent sous une tension de dire, parce que tu es chrétien, tu peux te faire tuer. Il y a des pays dans l'Afrique du Nord où les gens ne peuvent même pas dire qu'ils sont chrétiens à leur famille, sinon c'est comme une sentence de mort. Mais Jésus et leur vie, et même la mort, est un gain. Ils sont prêts à dire, s'il le faut, si Dieu dans sa souveraineté fait que je dois partir aujourd'hui, je suis en paix et célébrer ma vie. Il y a des gens même dans l'adversité la pire, sourit à Dieu en disant « Merci pour ta vie parce que tu es mon espoir. » Est-ce qu'on pourrait, nous ici, en Occident, en Amérique du Nord, pouvoir dire « Seigneur, tu nous as tellement donné de bénédictions et de manière de vivre facile la foi. Seigneur, donne-nous de ne pas nous assoupir sur ce confort. Donne-nous de ne pas oublier le côté où nous avons une mission, c'est de briller, c'est d'enflammer ce monde par l'amour de Dieu. » Il y a tellement de monde qui cherche l'amour de Dieu, qui ne le connaissent pas. Dieu veut se révéler à travers nous. Est-ce qu'il y a une église qui est prête à dire oui, Seigneur, si tu as besoin de moi, envoie-moi. S'il y a quelqu'un à aller parler, je vais ouvrir ma bouche. Et je ne sais pas quoi dire, mais la parole de Dieu me dit, ben, si j'ouvre, tu vas me mettre les mots et tu vas me donner tes dons de l'esprit. Il y aura des paroles de connaissance, il y aura des paroles prophétiques, il y aura des dons de guérison. Est-ce que vous les cherchez? Parce que Dieu veut les donner, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Est-ce qu'on peut demander à Dieu, Seigneur, donne-nous tous les outils que nous avons besoin pour aujourd'hui, ne pas avoir peur de la fin des temps, ne pas nous recroqueviller en tant qu'Église en disant « Eux, c'est les méchants, nous, c'est les gentils, on attend le retour de Christ. » Non, sortez de vos maisons, allez propager la bonne nouvelle parce qu'il y a un monde qui en a besoin et l'Église a la solution. Nous pouvons déclarer que Jésus-Christ est Seigneur, il est le Sauveur. Il a aimé les gens avant même qu'ils puissent l'aimer en retour. Il a déjà pardonné les gens avant même qu'ils leur demandent pardon. Il a fait tout d'avance pour nous. Est-ce qu'on pourrait juste dire, Seigneur, réveille-nous, donne-nous d'être prêts. Si tu reviens aujourd'hui, je suis prêt à partir. Et si tu me donnes demain pour vivre, demain je serai encore plus proche de toi. Je vais lire ta parole plus, je vais prier, je vais te demander une nouvelle fraîcheur dans la louange, que je puisse lever mes mains dans la louange, que je puisse prendre ma place dans l'église, que je puisse m'impliquer, que je puisse aller à ITF, à l'Institut théologique, que je puisse rentrer dans le ministère parce que j'ai l'impression que ça fait des années que tu m'appelles, mais que je ne saute pas. Seigneur, donne-moi de faire un pas de foi dans cette saison. Alors que je pourrais m'asseoir sur mes acquis, sur tout ce que j'ai d'opulence, de confort. Seigneur, je suis prêt à abandonner tout ça pour la cause de Christ. Parce que tu es ma vie. Et même la mort va être un gain. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux alors que je vais prier pour vous? Et quand je parle de l'Église, quand Christ va venir et nous reprendre avec lui. Quand j'étais adolescent, je me souviens qu'il y avait des films de peur, de terreur qui me montraient est-ce que tu vas être prêt à partir? Et puis j'avais plus la crainte que le désir de m'en aller avec Dieu. En fait, je me disais, oh non, il ne faut pas que ça arrive ce jour-là, je ne serai pas prêt. Nul ne peut le savoir, ni le jour ni l'heure. Il viendra comme un voleur. Par contre, il nous laisse du temps. Et si tu respires aujourd'hui, c'est que c'est un jour de grâce et il te donne encore une opportunité pour t'approcher plus proche de lui. Et certains, les gens disent, non, mais je ne peux pas m'approcher, je ne connais pas encore assez, je ne suis pas encore assez parfait. Il y a des gens qui restent en arrière parce qu'ils se disent, je ne suis pas assez digne. Mais tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne. Mais parce que Jésus est mort à la croix il y a 2000 ans, il a donné sa vie, son corps, son sang a coulé. Il est mort, il a donné sa vie pour que tu puisses la recevoir. Mais il est mort pour tes péchés. Donc ne regarde pas à qui tu es toi en ce moment, regarde à qui lui il est. Ne regarde pas à ce que tu as fait, regarde à ce que lui a fait pour toi. Et si tu lui dis, Seigneur, je te donne ma vie, en fait je te la remets. Tu es déjà mort pour elle, mais aujourd'hui je veux te la remettre, je veux m'abandonner à toi, je veux te demander pardon pour mes péchés parce que je sais que je ne pourrai pas atteindre Dieu par moi-même. Je ne suis pas digne, mais tu m'as rendu digne. J'étais hors de la maison et tu es venu me chercher en disant maintenant tu peux être un fils dans la maison, une fille dans la maison. Seigneur, je te prie pour une église qui soit réveillée en disant, Seigneur, si tu nous donnes un jour de grâce aujourd'hui, ben on veut se rapprocher encore plus de toi aujourd'hui. On veut proclamer toujours qui tu es. Et s'il y a peut-être quelqu'un ce matin qui dit, moi, je n'ai pas encore fait la paix avec Dieu. Je ne suis pas encore dans la famille, je ne suis pas encore dans cette église que Jésus viendra rechercher. Et je me pose des questions, est-ce que je vais partir avant ou est-ce qu'il va venir me rechercher? La seule chose qu'il faut que tu te poses aujourd'hui, c'est est-ce que je peux devenir enfant de Dieu? La réponse est oui, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait. tu aurais passé ta vie comme quelqu'un qui a fait de la violence. Jésus te pardonne parce que toute la violence, il l'a déjà portée à la croix. Mais il t'a donné l'opportunité d'être lavé, d'être réconcilié avec Dieu. Tout ce qui pèse sur tes épaules peut être enlevé. Et maintenant, la paix de Dieu, tu peux la recevoir.